enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je voudrais vous parler rapidement, en quelques mots, des bienfaits du désert. Qui d'entre vous aime aller dans le désert? Soyez honnête. Qui aime vraiment le désert? Attendez, soyez vraiment honnête là, j'en vois plein de mains levées là. Qui est-ce qui aime les temps désertiques dans sa vie privée? C'est bien, vous êtes honnête ce matin, c'est très très bien. Mais je vous assure que vous avez passé par le désert du Néguev ou le désert du Sinaï, tout à coup vos yeux s'ouvrent sur les bienfaits du désert. Sur les bienfaits du désert, c'est Michel Allard je crois qui avait dit un jour ici, on est tous soit dans un problème, en route vers un problème, ou on sort d'un problème. Je dirais, on est tous soit dans un désert actuellement, ou on sort d'un désert, ou on est en route vers un désert. Je vais te donner une bonne nouvelle. Le désert est un lieu extraordinaire. Le désert est un lieu et un concept inséparable de Dieu. Le peuple de Dieu a toujours traversé régulièrement des temps de désert, programmés par Dieu dans sa vie. C'est pas facile, certes, mais c'est utile et bénéfique. Je vous laisserai quatre bénéfices du désert. Lisons ensemble dans Osée, chapitre 2, un texte introducteur. Versets 10 à 16. Osée est juste après le prophète Daniel. C'est le premier des petits prophètes. Et qui n'est pas si petit que ça, c'est le prophète évangélique, par excellence. Il nous parle de la rédemption. Mais il nous parle aussi du péché et de ses conséquences, et comment Dieu va traiter son peuple qui vient de pécher. Il est dit là, en parlant de Juda et d'Israël, au verset 10, « Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le moût et l'huile. Et on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon moût dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devait couvrir sa nudité. » Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait « c'est le salaire que m'ont donné mes amants ». Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtirai pour les jours où elle encensait les Baals, et où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Et maintenant, écoutez le verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. C'est là que je parlerai à son cœur. Premier point, le désert est le lieu par excellence où l'on reçoit la parole. Dans la langue hébraïque, il y a plusieurs mots qui décrivent le désert, mais il y en a un qui est prédominant sur les autres, qui est le mot midbar. Et midbar comporte la notion de parole. Midbar veut dire parle. Le désert est le lieu où Dieu parle à nos cœurs. Bien souvent, nous souhaitons éviter les déserts. Et on demande, Seigneur, mais parle-moi. Et Dieu nous entraîne dans des moments de solitude, dans des moments désertiques, pour la bonne raison qu'il veut nous parler. Le désert est le lieu par excellence où l'on reçoit la parole. C'est dans le désert que Moïse a reçu la parole. Va en Égypte, délivre mon peuple. C'est dans le désert que Élie, le prophète, a reçu la parole, retourne, oindre Élisée. C'est dans le désert que Jean-Baptiste a reçu son appel. C'est dans le désert encore de Patmos que Jean, l'évangéliste, a reçu la révélation de l'Apocalypse. Le désert est par excellence le lieu où l'on reçoit la parole. Un lieu de silence, mais un lieu aussi où Dieu peut enfin parler. C'est Wilkerson David qui disait que l'Occident gît sous la conspiration du bruit. Constamment, on est entouré de bruits et de voix diverses. La ville est faite de bruits incessants. On s'est habitué au bruit des trains, au bruit des camions qui traversent les autoroutes, qui contournent les villes et qui font un bruit incessant nuit et jour. Et le silence du désert peut être effrayant parce que le bruit là-bas n'existe pas. Et souvent les gens, disait la guide, quand ils viennent dans le désert, ils ne supportent pas l'absence de bruit et ils font du bruit, ils tapent des mains, ils tapent du pied pour éviter d'avoir un silence oppressant. Mais le silence est bon. C'est dans le silence que Dieu parle. Amen. Le désert est le lieu où l'on reçoit la parole. En France, il y a en moyenne 6 postes de radio par foyer. Il y a au moins 1 ou 2 téléviseurs. Il y a Internet. Il y a l'activité qui nous encombre l'esprit du matin au soir. Et dans cette foule de voix qui nous envoie des foules de messages, Dieu a des fois du mal à nous parler. Et c'est pour ça qu'il nous entraîne dans le désert, afin qu'il puisse parler à nos cœurs. Et même là-bas, dans le désert, rappelez-vous l'ami Élie, tout d'abord c'est le tremblement de terre qui est venu, 1 Rois 19, et Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et puis est venu un vent violent, et là non plus, Dieu n'était pas dans le vent violent. Ni même dans le feu qui tombait du ciel. Et puis est venu un murmure doux et léger. Et c'est là que Dieu a parlé. Mes amis, lorsque Dieu parle, il ne crie pas. Dieu ne hurle pas d'habitude. Dieu parle sur un ton doux, un murmure doux et léger. Les fois où Dieu m'a parlé personnellement, c'est généralement le matin au réveil. Quand j'ai passé une nuit de sommeil et que je suis frais et dispo, et que j'ai l'impression qu'avoir vécu l'activité de la journée dans ma tête, tout à coup me viennent des pensées fortes qui viennent dans mon cœur. Et elles alimentent mon âme et elles me dirigent dans ma vie. Amen. Le désert, Midbar, rappelez-vous de ça, c'est le concept parle. Le désert est le lieu où l'on reçoit la parole. Peut-être me direz-vous, j'arrive pas à entendre Dieu me parler. Je te pose la question, y aurait-il sur la bande, la fréquence là, entre toi et le ciel, du brouillage? Il y a trop de bruit, il y a trop de bruit, tu as du mal à entendre ce qu'il a envie de te dire. Mon frère, ma sœur, peut-être qu'il est temps que tu t'isoles et que tu ailles dans un lieu silencieux, un lieu voire désertique. Retire-toi un instant. Voyez-vous, tant que Israël obéissait à Dieu, écoutait sa voix et obéissait à Dieu, Dieu les bénissait et ils avaient tout ce qu'il leur fallait. Mais il est venu le jour où, installés dans le pays, ils avaient le pays où coule le lait et le miel. Et ils avaient tellement de choses à faire, tellement d'activités à faire, qu'à la fin, ils n'avaient plus le temps d'écouter Dieu leur parler. Et ils ont commencé à dériver vers d'autres dieux. Dans ce cas précis, les Baals et les Astartés. Aujourd'hui, on dirait les choses qui cristallisent notre énergie, notre attention, notre argent, notre temps. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être les loisirs, un tas de choses. La chose la plus importante, c'est que tu entendes Dieu te parler. Je l'attirerai dans le désert et là, je parlerai à son cœur. Le désert est un lieu de réception de la parole de Dieu. Deuxième point, le désert est un révélateur. Comme en photo, il y a un produit qu'on appelle le révélateur. Vous avez un papier photo, vous le trempez dans le révélateur. Quand il est dehors, il est en blanc. Quand vous le trempez dedans, se révèle ce qu'il y a sur la feuille blanche. J'aimerais vous dire que le désert est le lieu où on se découvre soi-même. Où on découvre qui on est. Ou plutôt qui on n'est pas. Ou qui ne voudrait pas être. C'est le lieu où on se découvre. Et on découvre le face-à-face avec soi-même. C'est des Touaregs qui ont dit la chose suivante, un proverbe. Dieu a créé un pays plein d'eau pour que les hommes puissent vivre et un pays sans eau pour que les hommes aient soif. Et Dieu a créé un désert, un pays avec et sans eau pour que les hommes trouvent leur âme. Bien-aimés, c'est étonnant, n'est-ce pas, que Israël, avant d'arriver dans le pays de Canaan, tout d'abord, ils ont traversé un temps de désert. Ils ont vécu le Dieu puissant, Le Dieu Tout-Puissant qui a ouvert la mer Rouge, arraché les moyeux et les essieux aux chars des Égyptiens. Ils ont vu la mer se fermer sur les Égyptiens. Ils ont vu vraiment la gloire de Dieu. Mais avant de vivre dans le pays où coule le lait et le miel, ils ont d'abord vu le désert. Et dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est révélé ce qu'il y avait au fond du cœur. Les murmures, les révoltes, l'insoumission, l'incrédulité. La première chose que Dieu fait avec nous dans le désert, c'est de nous montrer qui nous sommes. Je pense à l'ami Jacob. Il y a des déserts qui sont plus ou moins longs. Jacob a été pendant 20 ans au service de son beau-père. Et puis il a eu les deux filles, et puis il a eu le troupeau, etc. Mais voyez-vous, à un moment donné, le passé allait rattraper Jacob. Et Jacob avait, de manière absolument tordue, obtenu le droit d'aînesse. Et puis il a toujours été un peu fourbe, tout en étant un homme de Dieu, un homme qui aimait Dieu, un homme qui avait les sensibilités aux choses spirituelles, un homme qui vraiment marchait avec le Seigneur tout un temps. Mais tout au fond de lui, il y avait une nature Jacob, tordue. Et à un moment donné, Dieu lui dit, maintenant tu rentres à la maison. Et Jacob savait qu'en rentrant à la maison, il allait croiser le chemin d'Ésaü. Et Dieu lui dit, retourne. Et puis Jacob, c'est pas folle, Maghreb, n'est-ce pas? Il est très très intelligent, il est malin, il est futé. Il met devant d'abord les serviteurs, puis les troupeaux. Après, il met la femme qu'il aimait moins, Léa et ses enfants. Puis il met la femme qu'il aimait plus, Rachel et son fils, Joseph. Et enfin, lui-même, n'est-ce pas, tout à la fin. Et il s'est dit, si tout le monde est massacré, moi au moins, j'aurai le temps de me tirer. Très très courageux, n'est-ce pas? Responsable et tout. Un homme de Dieu. Mais voyez-vous, Dieu, à un moment donné, va l'entraîner dans le désert pendant une nuit. Et pendant une nuit, il va lutter avec Dieu. Et à un moment donné, il devient vainqueur. Et Dieu lui déboîte la hanche et lui dit, quel est ton nom? Le Dieu omnipotent qui peut tout faire. Le Dieu omniprésent qui est partout présent en même temps. Et le Dieu omniscient qui savait tout sur tout le monde a besoin de poser la question, comment tu t'appelles? Mes amis, ils savaient comment je m'appelle avant que je sois né. Donc ils savaient aussi comment s'appelait Jacob. Mais la raison pour laquelle Dieu a posé la question à Jacob, c'est que Jacob n'avait jamais associé son nom à sa nature. Il n'avait jamais compris que lui était en fait un tordu. Qui aimait Dieu, mais tordu quand même. Et la bonne nouvelle de l'histoire, c'est que dans le désert, Dieu lui a montré qui il était. Il y a eu un face-à-face avec lui-même. Et en même temps, tu vas le transformer. Et d'un Jacob, il va en faire un Israël. Amen. Un homme qui marchera avec Dieu, qui sera responsable et qui sera un exemple pour Israël. Amen. Pareil pour l'apôtre Pierre. Souvenez-vous de Pierre. Dans Luc 22, à un moment donné, Dieu lui lance une phrase absolument déconcertante. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. On est à Luc 22. On est à la veille de l'arrestation de Jésus. On est à quelque temps de la fin du temps de Jésus. On n'est pas dans Luc 5 où Pierre rencontre Jésus. Dans Luc 22, on pourrait penser que Pierre est déjà converti. Eh ben non. Pierre, oui, tu m'aimes bien. Oui, Pierre, tu m'aimes. C'est vrai que tu m'aimes. Ouais, tu es fougueux pour moi. Oui, tu es un type formidable, impétueux. Tu y vas. T'en veux. Mais tu ne te connais pas encore toi-même. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Et il lui dit, dans 3 jours, tu vas me renier 3 fois. Ah ben non, ça n'arrivera jamais. 3 fois, je te dis. Et vous connaissez le reste de l'histoire, Pierre va renier Jésus. Et pendant 2-3 semaines, il va connaître un temps de désert. Un temps de désert où Pierre sera face à face avec lui-même. Et quand Pierre va retrouver Jésus au bord du lac de Génézareth, Jésus lui demande, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui Seigneur, je t'aime, oui je t'aime. M'aimes vraiment? Oui, je t'aime, oui. Pierre, m'aimes-tu vraiment? Et Pierre lui dit à un moment donné une phrase extraordinaire. Il lui dit, Pierre, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu connais mes défaillances. Maintenant, je les connais aussi. Tu sais ce que je suis, ce que je vaux. Mais au fond de moi-même, je t'aime. Et Jésus a fait d'un Simon un Pierre, un rocher. Et il l'a fait comment? En l'entraînant dans un temps de désert. Le désert est nécessaire à nos vies parce que là, on découvre qui on est et Dieu peut commencer à nous transformer. On peut commencer à dire, Seigneur, oui, vas-y, prends ton scalpel, là-dedans dans mon cœur, vas-y, taille dedans, coupe, Coupe les branches mortes, coupe ce qu'il faut couper. Vas-y, travaille mon cœur. Change-moi, Seigneur. Oui, je sais que je suis un pourri, mais change-moi. Transforme-moi. Seigneur, au secours. Amen. Et bien-aimé, Pierre ne sera plus jamais le même. Jacob ne sera plus jamais le même. Dieu nous entend dans le désert afin de nous montrer qui nous sommes réellement. Mais là, il veut nous transformer et nous communiquer une nature nouvelle afin que nous puissions le servir selon l'esprit et non selon la chair. Amen. Troisième point. Le désert est un lieu de dépouillement et où nous découvrons la présence de Dieu. Lisez avec moi un texte dans Genèse 21. On retrouve là une femme renvoyée par Abraham et qui s'en va dans le désert. Elle a pour, en tout et pour tout comme patrimoine, ses vêtements, les vêtements de son enfant, quelques miches de pain et puis de l'eau. Et puis très vite, eh bien, vous savez, au désert, il fait très chaud, vous buvez tout le temps, et à un moment donné, vous n'avez plus rien. Quand il n'y a plus d'eau, c'est terrible. Mais voyez-vous, dans le désert, on apprend différentes choses. On lit ensemble ce verset 14 à 17, pardon, 15 déjà. L'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc car elle disait que je ne vais pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu Agar ? Ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main car je ferai de lui une grande nation. » Et est-il marqué verset 19, un texte extraordinaire. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, etc., etc., etc. Dans le désert, on apprend trois choses. La première, c'est que nos besoins fondamentaux ne sont pas très nombreux. Deuxièmement, que Dieu est présent aussi dans le désert. Troisièmement, que ce qu'il nous faut, c'est dépendre de lui. Voyez-vous, on vit dans une société qui constamment crée de nouveaux besoins. Il y a 10, 15 ans, Internet était inutile. Aujourd'hui, il le faut tout le temps. Mais voyez-vous, Agar, dans ce cas précis, n'avait besoin ni d'un PC, ni d'une console électrique, ni d'un lave-vaisselle. Elle avait absolument et avant tout besoin d'eau. J'aimerais vous dire que parfois, on s'encombre d'un tas de choses dans nos vies, mais que Dieu répond à nos besoins fondamentaux. Et l'eau est fondamentale. Deuxièmement, Agar était une femme désespérée, une outre vide, un enfant déshydraté, un soleil accablant, et elle avait oublié une seule chose, c'est que Dieu était là. Bien souvent dans nos déserts vient la question, mais où est Dieu? Mais où es-tu Seigneur? Seigneur, mais tu es où? Moi je fatigue, j'ai faim, j'ai soif, j'en peux plus. Seigneur, où es-tu? J'aimerais vous dire, Dieu est là. Dieu était là pour Agar, Dieu est là pour vous, comme pour moi. Amen. Dieu est là dans nos déserts. Dieu est là dans nos déserts. Ne désespérez pas, au contraire, osez croire que Dieu est là et qu'il viendra à votre secours. Et à un moment donné, Dieu aussi vous montrera que si vous criez à lui, il ouvre des puits, il ouvre des sources où il n'y en a pas. Dieu peut ouvrir des portes là où toute porte est fermée, parce que Dieu est Dieu et il peut toutes choses. Amen. Le désert est un lieu de dépouillement, mais aussi un lieu où nous connaissons et apprenons à connaître la présence de Dieu. Israël a passé dans le désert, parce que dans le désert, il fallait qu'ils apprennent que Dieu est tout. Dieu a les pouvoirs en eau, en nourriture, en médicaments, en tout ce qu'il fallait. Avec Dieu dans le désert, tu sortiras vainqueur. Mais sans Dieu dans le désert, tu es mal barré. Alors assure-toi mon ami, que Dieu soit avec toi dans ton quotidien. Et quand le désert viendra, Dieu sera encore là. Et Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Dieu est prévu cette étape intermédiaire afin qu'ils apprennent à apprécier les vraies valeurs et à relativiser. Bien-aimés, des fois, il nous faut des temps de désert pour qu'on apprenne à se rendre compte qu'est-ce qui a vraiment de l'importance. Des fois, j'entends des gens râler parce que la musique est trop forte, pas assez forte. Et maintenant, on a mal joué, on a trop bien joué. Bien-aimés. Alors, c'est tant mieux si la musique et la chorale jouent très bien à l'église. Tant mieux si tout est parfait. Mais le plus important, c'est la présence de Dieu. Le plus important, c'est la présence de Dieu. Le plus important, c'est que Dieu soit là. Et si Dieu est là, le reste passe au second plan. Bien sûr, faire des progrès, mais le reste est secondaire. Amen. Apprenons à distinguer ce qui est fondamental de ce qui est secondaire. J'aimerais vous dire, dans le désert, on apprend à distinguer ces choses-là. Amen. L'apôtre Paul avait été exercé à ce genre d'école du désert. Laissez-moi lire un texte que vous connaissez sans doute tous par cœur. Philippiens 4, versets 12 à 14. L'apôtre Paul remercie l'église de Philippe pour les dons qu'il y avait faits. L'apôtre Paul dit une phrase que je trouve absolument remarquable et je voudrais vous la laisser dans votre cœur. Il dira au verset 11, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Je sais vivre dans l'humilité et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Être dans l'abondance et dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. L'apôtre Paul a connu les temps de gloire où tout allait bien et les temps difficiles où l'essentiel lui manquait. Mais en toute chose, il avait appris à compter sur Dieu. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. Quatrième et dernier point, le désert est un lieu de développement des racines. Le désert est un lieu de développement de nos racines. Saviez-vous que lorsqu'on avait creusé le canal de Suez, on a enlevé à un moment donné un acacia. Un acacia, c'est 3-4 mètres de haut, mais qui avait 98 mètres de racines. 98 mètres de racines. Dans le désert, avec Christian et l'équipe, nous avons vu des capriers. Ça de haut, et ça peut avoir jusqu'à 60 mètres de racines derrière. C'est la seule plante, le caprier, c'est pas ça, hein. Le caprier est la seule plante du désert qui fleurit en été. On l'appelle la plante persévérante. Quand les autres fleurs et plantes n'ont plus de fleurs, sont fanées, elles continuent à avoir des fleurs et à avoir une belle feuille. Pourquoi ? Parce qu'elle a plongé profondément ses racines dans de longues distances pour recueillir l'humidité et l'eau qui lui est nécessaire. Le caprier a au bout de ses racines un acide qui perfore le granit et qui va chercher l'humidité nécessaire pour s'alimenter en eau. Et c'est pourquoi le caprier, c'est la fleur du désert. Une belle fleur jaune en plein été quand il fait 55 degrés. À l'ombre. Belle image, n'est-ce pas? Bien-aimés, le désert est un lieu de développement de nos racines. Le psaume 1 parle de l'homme qui est béni, n'est-ce pas? Et dont le feuillage ne se flétrit point. Pourquoi donc? Parce qu'il a plongé ses racines profondément dans la terre. Mes amis, le palmier, par contre, est un arbre extrêmement fragile parce que sa racine est peu profonde, peu profonde. Le caprier, lui, peut subsister, porter des fleurs, porter du fruit, parce qu'il a plongé profondément ses racines. Qu'en est-il de vos racines ? Qu'en est-il de vos racines avec le Seigneur ? De vos racines dans le Seigneur ? Lisez avec moi Jérémie 17, un texte qui parle de racines. Ou du moins qui parle non pas des racines, mais des fruits qui sont portés parce que les personnes ont développé un système de racines important. Jérémie 17, verset 7. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. » Conséquence ? Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. La raison pour laquelle il n'arrête pas de porter du fruit, c'est parce qu'il a développé des racines profondes. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, vous qui êtes dans le désert, Peut-être tout simplement Dieu est en train de vous bousculer intérieurement et vous pousser à développer des racines, à aller agressivement percer la roche et trouver l'humilité nécessaire. Parce que voyez-vous, tôt ou tard, l'année de la sécheresse viendra. Comme dans Matthieu 5, qui nous est parlé des deux maisons, n'est-ce pas ? La maison fondée sur le roc, l'autre sur le sable. Mais les deux maisons ont vécu la tempête. La tempête est venue pour chaque maison. Mais l'une a tenu, l'autre s'est écroulée. La sécheresse viendra pour chacun d'entre nous, à un moment ou un autre. Mais j'aimerais te dire, apprends à développer maintenant les racines. Amen. Alors, par rapport au caprier, une petite anecdote. Saviez-vous que le caprier est appelé le Viagra du désert? Ah, mes frères, hein, ça vous intéresse? Eh oui. T'en manges tous les jours, je comprends, je vois les effets. Christian m'a montré un texte qui me prouve ce que disent les Bédouins. Dans Ecclésiaste 12, il est parlé du capre, de la capre qui n'a plus d'effet sur l'homme vieillissant. Eh oui, Ecclésiaste 12, verset 7. Ah oui, 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 c'est marqué. Alors me demanderez-vous, mais Claude, t'as déjà essayé? Je vous dirai la réponse du Bédouin qu'on a rencontré. Il paraît que ça marche, mais moi, j'en ai jamais eu besoin. Merci Seigneur. Oui, tout à fait, merci Seigneur. Maintenant, mes sœurs, si dans les prochains temps, votre mari rentre à la maison avec une boîte de capre, voilà. Je conclue et je termine. Peut-être, ce matin, vous posez la question, à quoi bon le désert? J'aimerais l'éviter à tout prix. J'aimerais te dire, tu es vraiment sûr que tu veux l'éviter? Ce serait dommage que tu l'évites. Parce que Dieu a envie de t'apprendre des leçons dans le désert. Le désert, je me rappelle, est le lieu où l'on reçoit la parole de Dieu. Au lieu de râler avec Dieu dans le désert, dis-lui, Seigneur, me voici. Parle, ton serviteur écoute. Dis-moi ce que j'ai à apprendre. Dis-moi ce que j'ai à savoir. Seigneur, mais parle-moi. Ton serviteur écoute. L'immense privilège du chrétien du Nouveau Testament, c'est qu'il peut entendre Dieu lui parler. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Et bien aimé, un homme et une femme qui grandit dans le Seigneur est d'abord un homme et une femme qui apprend à entendre la voix de Dieu. Dieu parle, mais souvent entre lui et nous, il y a du brouillage. On est tellement occupé, on est tellement pris dans nos têtes que des fois Dieu est obligé de nous prendre dans le désert afin de pouvoir nous y parler. Amen. Deuxième bénéfice, c'est que le désert est un lieu de révélation sur nous-mêmes, un lieu de transformation. C'est là que Jacob est devenu Israël. C'est là que Simon est devenu Pierre. C'est là que Saul de Tarse est devenu le Paul qu'il est devenu. Oui, Saul de Tarse, un homme religieux, un homme convaincu qu'il avait raison. Il a fait le chemin de Damas, il est tombé à terre et là il a découvert Dieu. Et si vous lisez les textes de Paul, eh bien, vous vous rendez compte que Paul a toujours à nouveau traversé des moments difficiles, des naufrages, des jeûnes incessants, des veilles nocturnes, des persécutions diverses. Mais Paul a développé des racines profondes. Et Saul de Tarse est devenu un Paul qui va nous léguer la moitié du Nouveau Testament. Le désert est un lieu de dépouillement et on apprend à connaître Dieu et à dépendre de lui. Bien-aimée Agar, elle a crié à Dieu dans le désert. Et dans le désert, Dieu lui a montré qu'il était là et il a pourvu à ses besoins fondamentaux, avoir de l'eau. Amen. Quatrième et dernier point, eh bien, le désert est un lieu de développement de nos racines. Elles sont indispensables car la sécheresse viendra toujours à nouveau toucher nos vies, de temps à autre. Je finis en disant la chose suivante. Ça, c'est le côté beau du désert. Mais dans le désert, il y a un prédateur pour la faune, qui s'appelle la chèvre. La chèvre est la mort du désert. Dans le désert, on vit très bien et très longtemps, sauf quand on y lâche la chèvre. Parce que la chèvre mange tout jusqu'à la racine. Bien aimé, j'aimerais vous dire que le désert et ses plantes, cette faune, c'est nos vies qui sont devant Dieu. C'est le feu que nous portons devant le Seigneur en persévérant dans notre foi en lui. Mais si vous laissez la chèvre du péché manger vos fruits jusqu'à la racine, tôt ou tard, vous risquerez de faire naufrage par rapport à la foi. Alors, éliminez les chèvres et marchez avec Dieu dans le désert. Amen. Le désert est un lieu extrêmement intéressant.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.